La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel. La sexploratrice. Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexploratrice en compagnie ce soir de Mel et Max.
Salut!
Allô!
Comment ça va?
Hey, ça arrête pas de bien aller, puis ça fait tellement longtemps qu'on a travaillé ensemble.
Tes phrases changent pas. Ça arrête pas de bien aller. Non. Alors ça me fait plaisir à entendre.
Mais ça fait longtemps que je l'ai dit, ça arrête pas de bien aller, par exemple.
Arrête!
Oui.
Tu l'as gardé pour moi ce soir?
Oui.
Ah, oh, je me sens privilégié. Content d'être ici, moi aussi, ça fait un bail, hein?
Oui, vraiment, très heureuse de te retrouver, sincèrement. Écoute, là.
Je me sens comme un hippopotame dans un petit lac.
J'espère que tu vas revenir.
Ben, j'espère show, aussi. Écoute, si tu m'invites, moi, je vais être là.
Yes!
Puis si le chèque suit, hein, faut que le chèque suive.
Ah, on s'en reverra pas.
Maudite affaire, jamais de budget.
Max, c'est une grosse semaine, hein, cette semaine. C'est la semaine de la prévention du suicide.
Effectivement, ben oui.
On sait que ça se termine demain. Et ben, c'est pas facile pour plusieurs personnes, évidemment. Mais ce soir, j'avais envie qu'on aborde différents sujets en lien avec la détresse psychologique. Et je suis tombée sur un live hyper intéressant d'une amie, Nathalie Bouchard, qui est collaboratrice avec nous déjà,
oui.
Qui a reçu quelqu'un d'extraordinaire
coach,
à son émission.
Coach PNL, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça nous prend cette personne-là. Et il a dit oui.
Arrête donc.
On a avec nous docteur Jean-Guy Rochefort, qui est un homme passionné par son métier depuis plus de 41 ans, donc un psychologue clinicien qui est avec nous ce soir. Monsieur Rochefort, vous êtes également conférencier, animateur, superviseur et formateur.
Oui, absolument.
Un homme
merci,
à tout faire.
Merci de l'invitation.
Salut, Doc. Je peux-tu vous appeler Doc?
Oh, comme vous voulez.
All right, Doc.
Docteur Rochefort est avec nous ce soir. Donc, on va parler, comme on le disait, là, des différentes formes de détresse mentale, finalement, de maladie mentale également. Et mesdames et messieurs, vous êtes invités à interagir avec nous via le live au 418-670-9098 et même de nous appeler si vous avez envie de poser des questions à Dr. Rochefort. Par contre, comme toujours, le trauma avertissement existe. Notez que tout ce que vous nous partagerez est d'informations publiques, finalement. Donc, vous ne pourrez pas dire qu'on vous aura pas averti. Et en aucun temps, vous devrez prendre les informations ou ce qu'on vous partagera en ondes comme étant une thérapie.
Hein?
Ce n'est pas une thérapie qu'on fait ce soir.
On ne fait pas de thérapie en ondes.
On ne fait pas de thérapie en ondes. C'est un échange avec vous qu'on fait. Donc, voilà.
Entre amis autour d'un micro, ou presque.
Et voilà.
Voilà.
C'est sous forme presque d'un podcast, notre affaire. C'est vraiment
c'est
une émission de radio.
C'est un peu ce qu'on fait quand on regarde ça.
Oui, c'est vraiment une émission de radio, comment dire, beaucoup plus lousse, je dirais, là, le vendredi comme ça, on aime ça. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Docteur Rochefort, il existe... quels seraient les principaux troubles de santé mentale, en fait, qui existent tout d'abord, mais qui pourraient aussi mener éventuellement au suicide? Parce que c'est pas tous les troubles de santé mentale qui mènent nécessairement au suicide, mais je pense qu'il y en a qui sont prédisposés ou qui mènent davantage que d'autres. Est-ce qu'on pourrait peut-être décortiquer tout ça avec vous?
Bien d'abord, on pourrait dire qu'il y a trois grandes catégories de troubles en santé mentale. On va parler des troubles anxieux, on va parler des troubles de l'humeur et on va parler des troubles de la personnalité. Il n'y a pas une catégorie plus qu'une autre qui peut être prédisposée au suicide. Ça dépend vraiment des conditions de la personne, des conditions dans lesquelles la personne est en train de vivre un désarroi ou une détresse. Et ça dépend aussi des ressources qu'elle a autour d'elle, puis des ressources intérieures qu'elle a et qu'elle est consciente qu'elle a. Si je vous décrivais de façon générale les trois catégories, quand on parle des troubles anxieux, on va parler de ce qu'on appelle l'anxiété sociale, le post-traumatique. On va parler de l'anxiété généralisée, communément appelée le TAG, le trouble d'anxiété généralisée, pour lequel il y a passablement de gens. Puis si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais le décrire un petit peu plus pour que les gens comprennent bien.
Oui.
Et... il y a l'angoisse de séparation, qu'on n'entendait pas parler beaucoup à une certaine époque, mais en 2015, quand le DSM... Le DSM, c'est l'espèce de...
Le manuel de...
manuel diagnostique des troubles mentaux. Et quand il a été mis à jour en 2015, cette catégorie-là d'angoisse de séparation, elle était seulement pour les enfants. Au niveau
c'est vrai, anxiété de séparation, angoisse de séparation, on entendait ça.
Puis maintenant, cette catégorie-là, on la retrouve chez les adultes.
Chez les adultes.
Et moi, c'est arrivé assez fréquemment que j'ai eu des gens qui sont venus me consulter, puis ils venaient me consulter pour ça.
On parle concrètement, là, dans...
De gens qui n'ont pas développé de sécurité intérieure dans leur développement.
Ont des styles d'attachement anxieux.
Oui. Et ils vont rester chez les parents... 30, 35 ans et plus, là, sont encore chez les parents. Et ils vivent une grande angoisse quand ils s'éloignent.
Du nid familial.
Du nid familial. Et j'en ai des gens qui sont venus me consulter avec une crainte de, on appelle ça de l'hémétophobie, une crainte de vomir en auto.
OK.
Et que j'ai découvert chez plusieurs que c'était de l'angoisse de séparation qui se passait en dessous.
Quand t'as envie de vomir en auto.
Qui fait que ces gens-là vivaient de l'angoisse, mais ils n'étaient pas capables d'identifier que c'était de l'angoisse qu'ils vivaient, parce que quand on vit de l'angoisse, il y a beaucoup de symptômes physiques. Hein?
Oui, puis il y a même des gens qui se ramassent à l'hôpital. Là, il y a 25 % des admissions aux urgences pour douleurs thoraciques. Des gens qui croient qu'ils font une crise cardiaque qui sont finalement en train de faire une crise d'angoisse.
En fait, c'est des attaques de panique.
Oui.
Les attaques de panique, ils vont provenir de quelqu'un qui est en train de faire une crise d'angoisse. Puis les crises d'angoisse...
Parce que c'est pas la même chose, dans le fond, une attaque de panique et une crise d'angoisse?
Ben, en fait, l'attaque de panique, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement peur de l'émotion que je suis en train de vivre, parce que l'angoisse, c'est une émotion. C'est une émotion de peur à son extrême. Alors, les gens qui sont pas habitués de vivre des émotions, puis qui tout d'un coup, de façon abrupte, vont vivre une peur très, très intense, vont se mettre à avoir peur de ressentir de la peur. D'où peur l'expression « la peur d'avoir peur ».
Oh. Okay? Oh, tu as déjà vécu ça, toi, Max? Une crise d'angoisse ou une crise de panique? Une attaque de panique?
Oui, ça m'est arrivé une fois. Oh, c'est vraiment désagréable.
Pas le fun, hein?
Non, je me souviens avoir pris un taxi puis avoir demandé au chauffeur de m'amener à l'hôpital le plus rapidement possible.
C'est très épeurant.
En pensant que je faisais une crise cardiaque, justement.
Ah ouais, c'est ça.
Y a-t-il un lien avec ça puis les névroses d'angoisse? On est-tu dans la même table ou...
Non, là, on n'est pas dans les mêmes choses parce que ce qu'on appelait des névroses d'angoisse à l'époque.
On est plus dans le vieux vocabulaire, là.
Oui, maintenant, on va parler plus de troubles de personnalité.
OK, c'est là que ça, c'est à ça que ça va parler.
Oh, oui, c'est plus ça. Là qu'on va parler de troubles de personnalité. Et pas n'importe quel dans les troubles de personnalité, mais là, c'est un grand champ. Là. Si on s'embarque dans le champ des troubles de personnalité, on en a pour longtemps. Mais si je reviens sur l'angoisse, la grosse distinction qu'il va y avoir avec l'anxiété, c'est que l'anxiété, ça se passe dans les processus cognitifs, ça se passe dans les pensées. Les gens s'inquiètent, font des scénarios catastrophiques.
De quelque chose qui n'est pas arrivé ou qui pourrait arriver.
Qui pourrait arriver, okay. Mais la plupart du temps, c'est dans l'imaginaire.
Ouais.
Alors, c'est des choses qui ne se passeront pas. Mais la personne a pensé que s'inquiéter, c'était quelque chose de bon. Alors, elle s'est habituée depuis le jeune âge. Puis tantôt, quand on discutait avant la rencontre, vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a des choses qui sont héréditaires ou qui sont acquises ou autre. Mais on va voir chez des gens qui ont... vous savez, le trouble d'anxiété généralisé, c'est un trouble qu'on retrouve chez environ 6 % de la population. Des gens qui s'inquiètent de façon importante.
Maladive.
Excessive. Et à cause des scénarios qu'ils font, ça amène de l'anxiété. Mais il ne faut pas penser que ces gens-là, ils font de l'anxiété au départ. Ils font de l'anxiété parce qu'ils s'inquiètent de façon excessive. Et là, au niveau des pensées... Il y a trop de cortisol qui est sécrété, puis là, il vient...
Ils sont toujours en mode prêt à réagir,
en mode alerte.
Oui, c'est ça.
Puis à un moment donné, ça fait un débalancement là, d'une des hormones de stress qu'on appelle le cortisol. Et ça finit par affecter certaines structures à l'intérieur du cerveau qui deviennent atrophiées. C'était le sujet de ma thèse de doctorat, d'ailleurs, là, quand j'ai travaillé sur le TAG, oui. Alors... Donc, on est au niveau des pensées quand on pense trop anxieux.
Oui.
Si on fait de l'anxiété sociale, par exemple, c'est au niveau des pensées aussi. C'est des inquiétudes excessives, mais en lien avec la crainte jugement des autres.
Est-ce que ça vient absolument et uniquement de l'enfance ou ça peut se développer aussi à l'adulte? Parce que j'ai l'impression que quand t'es enfant, t'as un imaginaire qui est riche, donc tu peux te mettre à faire de l'anxiété sur tout et à peu près n'importe quoi. Puis ça peut aussi devenir un mécanisme de défense que tu te sers quand t'es jeune pour te protéger de certains trucs qui t'arrivent.
Oui, mais l'anxiété sociale, il y a certains enfants qui vont avoir plus de propension à développer ça. Dans leur tempérament. C'est des enfants un petit peu plus timides.
Oui, c'est ça. Puis souvent, ils vont... Comment est-ce qu'on pourrait détecter l'anxiété chez nos jeunes? C'est comme moi, par exemple, mon fils est très, très réservé et tout ça. Puis je me suis déjà demandé s'il était anxieux parce qu'il n'a pas l'air. Il a l'air vraiment tout calme et tout. Mais je me disais peut-être qu'à l'intérieur, comme ma petite maman, c'était ça. Elle a l'air de rien, là, toute petite, toute, ouais, toute douce. Toute... Puis à l'intérieur d'elle, c'était constamment de l'anxiété qu'elle vivait. Là. C'était difficile. Comment est-ce qu'on pourrait arriver
à
les bonnes questions?
Peut-être qu'à l'intérieur d'elle, c'était plus des inquiétudes qui étaient présentes.
Oui.
Puis qui amenaient de l'anxiété. Oui. Beaucoup de gens qui viennent me consulter ne sont pas conscients qu'ils s'inquiètent de façon excessive. Ils sont conscients qu'ils sont anxieux. Alors, ils arrivent en disant, moi, je me sens beaucoup anxieux et parfois, je fais des attaques de panique. Parce que les deux peuvent se passer aussi.
Puis là, l'attaque de panique, c'est dangereux parce que moi, pour n'avoir vécu une intense,
ouais,
juste après, dans l'année qui a suivi, juste de penser que ça pourrait se reproduire, j'ai l'impression que j'aurais pu la redéclencher.
Bon.
Quand tu sais ce que ça t'a fait vivre,
ouais,
c'est intense là, vivre ça, c'est quelque
parler,
chose.
Là. Il faut vraiment se parler.
Puis ça, c'est à cause de l'angoisse. Ça, c'est à cause de l'angoisse qui est là avant l'attaque de panique.
Okay.
C'est juste que les gens sont pas toujours conscients qu'ils sont en train de faire une crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est très physiologique. La personne va avoir de la misère à respirer, elle va avoir des palpitations cardiaques.
Le corps réagit vraiment comme s'il y avait un danger.
C'est exactement ça. C'est que le centre de la peur dans le cerveau est activé. Puis quand le centre de la peur est activé, le cerveau envoie une défense automatique de protection qui est sous forme d'angoisse. Puis là, la personne a tellement peur de ce qu'elle ressent. Il y en a qui ont peur de mourir, qui ont peur de devenir fou, de perdre le contrôle. C'est des gros signes physiologiques qui arrivent de façon abrupte.
Soudaine, ouais.
Et la personne n'identifie pas tout le temps qu'est-ce qui a déclenché cette crise-là.
Okay.
Alors, c'est comme si la personne a l'impression de perdre le contrôle, puis elle arrive en entrevue, en disant « je veux reprendre le contrôle ». Et malheureusement, en traitement, c'est pas ça qu'on fait comme traitement.
Ce serait
alors
quoi?
On explique d'abord les mécanismes, on explique que c'est de la peur.
Mais cette propension-là, excusez-moi le doc, là, je ne voulais pas vous couper, mais cette propension-là à être angoissé, à faire de l'anxiété, ça part-tu d'un moment dans l'enfance, d'un événement qu'on a vécu ou ça se développe à l'âge adulte? Y a-tu un trauma à un moment donné qui fait en sorte que ça s'exacerbe? D'où est-ce que ça provient? Y a-tu des gens qui ont plus qui sont plus en proie à vivre de l'angoisse que d'autres?
Bon, il y a beaucoup de questions là.
Ah oui, moi je t'en lance des questions, Doc. Là. Ah oui, ça y va, Doc.
C'est Max le philosophe. Je t'ennuyais de toutes tes questions.
Ben en fait.
Je vais vous en poser beaucoup. Mais ça part-tu de l'enfance ou ça se développe à l'âge adulte? Commençons avec celle-là.
J'imagine que ça
en fait,
plusieurs...
tout le monde pourrait faire une crise d'angoisse une fois dans sa vie.
OK.
Parce que, par exemple, lorsqu'on se fait dire qu'on a un cancer, puis qu'on n'a pas de symptômes, puis qu'on s'y attend pas.
C'est un choc.
C'est un gros choc qui va probablement engendrer une crise d'angoisse.
Avec raison.
Ben, j'imagine.
Avec raison.
Si ça en cause pas, il faut que tu poses des questions.
C'est ça.
OK. Alors, c'est comme l'inconnu, c'est comme l'incertitude qui va créer cette angoisse-là. Mais c'est vu que c'est une angoisse qui est liée avec la peur de mourir, la peur de souffrir, etc., c'est quand même assez précis, puis avec les traitements, puis toute la rassurance qui va être apportée par les professionnels, c'est une angoisse qui restera pas.
OK.
C'est très différent de quelqu'un qui, à l'âge adulte, se met à commencer à faire des crises d'angoisse et dont on ne connaît pas la source au début. Fait que quand la personne vient, moi, je vais explorer
dans
avec la personne.
Dans ce cas-là, c'est un élément déclencheur. C'est quelque chose qui est arrivé.
Il y a quelque chose.
OK.
Mais qui n'est pas conscient chez la personne. Puis on va travailler ensemble, on va explorer pour essayer de découvrir ce qu'il y a. Maintenant, Max, dans la question que vous posiez, Je ne me rappelle plus, là, tout d'un coup.
Ah, j'en ai posé beaucoup de questions.
Est-ce que ça provenait de l'enfance? Est-ce que ça peut être génétique?
Il y a des tempéraments. Moi, j'ai remarqué que les gens qui sont très rationnels, très cérébraux, qui ne sont pas habitués d'aller dans leurs émotions, vont avoir très peur d'une grande émotion qui va arriver tout d'un coup. Et eux, ils sont probablement plus dans des mécanismes de contrôle dans leur vie de tous les jours. Alors, pour eux, de ressentir une perte de contrôle ou d'interpréter qu'il y a une perte de contrôle, c'est très, très épeurant.
OK.
Et ils ne savent pas comment identifier, on appelle ça de l'alexithymie, ils ne savent pas comment identifier alexithymie, c'est d'avoir de la difficulté à identifier les signes d'une émotion. Alors, avec eux, ils ne savent même pas...
Ce qu'ils ressentent,
puis de reconnaître les signes d'une émotion. Fait que pour eux, c'est tout un monde. Puis quand je leur explique qu'on n'ira pas dans le contrôle, mais qu'ils vont devoir comme apprivoiser la peur, que c'est pas dangereux, c'est pas dans leur habitude, alors ils ont très peur de ça au début du traitement.
Okay.
Quand je leur dis, là, ce qu'on va faire ensemble, c'est que quand vous allez vivre de l'angoisse, une crise d'angoisse, vous allez vous parler, vous allez vous dire que c'est pas dangereux, puis vous allez accepter que c'est présent à l'intérieur de vous.
OK, on tente pas de se changer les idées ou
non.
De... OK, faut l'accepter.
Non, parce que si on tente de changer les idées, il y a une partie de soi qui est inconsciente, puis qui continue d'avoir peur de l'angoisse, qui envoie un message au cerveau qui a peur, puis le cerveau continue d'envoyer des messages d'angoisse, puis là, c'est là qu'il y a une espèce de comment je dirais ça? Comme un système qui augmente de plus en plus et qui fait que, chez certaines personnes, cette angoisse-là va augmenter de jour en jour.
Mm.
Parce qu'elle l'alimente, mais elle n'est pas consciente qu'elle l'alimente.
OK.
OK?
Et là, mon Dieu, je pense qu'on devrait peut-être déjà faire une pause. Mesdames et messieurs, réservez vos circuits au 418-670-9098. Appelez-nous. Quelqu'un vient nous écrire une sacrée histoire là, sur le live. Donc, je pense que j'aimerais bien ça vous parler de vive voix en lien avec votre trouble de personnalité limite. Sinon, ben, je vous lirai là, au retour de la pause. Mais ça pourrait être intéressant de vous parler directement là, de vive voix. Donc, vous restez avec nous, Dr. Rochefort?
Absolument.
J'espère.
C'est très plaisant.
Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice ce soir en compagnie de Mel et Max sur les ondes de choix 98h à Zoix.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
Vous êtes de retour avec Mel et Max. C'est la Sexploratrice en ce beau vendredi soir. On est en bonne compagnie. Docteur Jean-Guy Rochefort, psychologue clinicien. Et juste avant d'aller prendre les appels parce que les lignes sont pleines, j'aimerais vous rappeler que vous avez écrit, chers auditeurs, que Dr. Rochefort a écrit deux livres jusqu'ici, dont La portée des mots dans une vie. Vous pouvez voir d'ailleurs le livre sur le TikTok de la Sexploratrice. On est en live sur TikTok.
Ça, c'est mon livre qui est sorti en 2023. Puis là, je viens de sortir en fin 2024. J'ai sorti le
livre. Tout récemment?
Oui, Blessures psychologiques, guide pour comprendre et soigner les blessures invisibles, qui est disponible dans toutes les librairies, un peu partout. Et il y a 12 histoires de vie de gens qui ont vécu différents problèmes, des gens qui ont réussi à améliorer leur qualité de vie en psychothérapie. Et les gens se reconnaissent beaucoup à travers des histoires comme ça.
Ben,
alors, on a plusieurs troubles anxieux, on a du TDAH, j'ai une personne qui a vécu une dépression avec un épuisement professionnel.
C'est rassurant quand on peut lire des histoires puis voir que les gens s'en sortent. Parfois, quand on vit des défis comme ça dans la vie ou qu'on est au prix avec des troubles anxieux ou de dépression ou des trucs comme ça, ben on peut se sentir seul puis avoir l'impression de pas voir la lumière au bout du tunnel, mais
c'est un livre d'espoir, le deuxième, là. Je l'ai vraiment écrit pour que les gens aient espoir dans leur établissement.
Blessure psychologique, le docteur Jean-Guy Rochefort. D'ailleurs, sur nos réseaux sociaux, là, on va pouvoir faire tirer le livre La portée des mots dans une vie.
Absolument, hein? Ça me fait plaisir.
Suivez-nous. Suivez la page Facebook de Dr. Jean-Guy Rochefort et la mienne, Mélanie Trudel. Mais pour le moment, on va aller prendre les appels. Ça déboule, ce show-là. Ça n'a aucun bon sens. Les exploratrices, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, vous avez quelque chose à nous partager ou une question pour Dr. Rochefort?
Oui, Dr. Rochefort, Max a parlé tantôt de l'anxiété chez les jeunes.
Oui.
Je voulais examiner une piste, là, de, parce que j'ai des parallèles en biologie. Là. Tu sais, vous savez, l'être humain, on ne se le cachera pas, c'est à la base, on est un mammifère. Puis une des principales caractéristiques chez les mammifères, en bas âge, c'est le réconfort auprès de la mère, OK? C'est-à-dire que quand il y a un danger ou quoi que ce soit, le petit se colle sur la mère, il a besoin de réconfort. José Arsenault, à un moment donné, pendant une de vos collègues, pendant qu'il était au 93, avait sorti une étude, à l'époque de Thomas Molker, du NPD, concernant les CPE, les garderies pour bébés. Puis un des facteurs qui arrivait, c'est que lors d'une séparation très tôt, ça emmenait beaucoup d'anxiété chez les enfants.
Lorsque la mère plaçait l'enfant à la garderie trop rapidement, disons, après la naissance.
Parce que quand on le regarde même sur le côté, au niveau des vétérinaires, les vétérinaires savent très bien que simplement même un chiot séparé très trop tôt, un des aspects qui revient souvent, pas toujours, mais un des aspects qui revient souvent, ça fait des chiens anxieux.
Oui.
Fait que je voulais voir ça du côté du docteur Rochefort, lui, comment il voyait cela.
Disons qu'au départ, c'est pas ma spécialité de travailler avec les enfants. Bien entendu, une des caractéristiques principales chez les enfants quand ils sont très jeunes et qui est importante, c'est vraiment le développement de la sécurité. La sécurité, c'est un des besoins fondamentaux de base qui va permettre à l'enfant qui grandit de développer une facilité d'aller dans ses ressources intérieures. Alors, quand il développe cette sécurité-là, il va être plus capable de se défendre devant les différents défis de la vie.
Donc, lorsque l'enfant se fait garder très rapidement après sa naissance par d'autres personnes ou qu'il est loin de sa mère, souvent, il peut développer une espèce de... Est-ce que c'est l'angoisse d'abandon?
Je pense pas que c'est directement associé nécessairement.
Ah non, OK.
Non, parce que ça va dépendre de la garderie. Une garderie avec 3-4 enfants qui sont gardés, l'enfant va développer un style d'attachement avec cette personne-là qu'il va voir de façon régulière. Je serais pas capable de dire qu'il y a une cause à effet directe chez l'enfant qui va se faire garder jeune. Maintenant, c'est pas...
Tant qu'on répond à ses besoins...
Oui, c'est ça.
Correctement, dans le fond, l'enfant pourrait ne pas développer d'anxiété si tous ses besoins sont comblés.
Peu importe par qui. Puis développer d'anxiété, moi, je parlerais plus peut-être d'insécurité.
OK.
Puis il y a aussi toute la question de l'attachement qui devient très, très, très important.
Oui.
Il y a une période qu'on appelle l'angoisse de séparation qui est tout à fait normale quand le bébé est quand même assez jeune et qui, si l'enfant se développe dans un milieu sécurisant, va passer à travers cette étape normale-là d'angoisse de séparation.
OK. Donc, c'est pas nécessairement lié à la mère directement.
Non, puis maintenant, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés par le père qui reste à la maison.
Oui.
Et c'est pas une question de mère ou de père, c'est plus une question de développer un lien significatif, sécurisant avec la personne la plus significative.
Puis à l'époque, là, de la préhistoire, on en parlait un peu, mais c'est quand même plusieurs personnes qui s'occupaient des nouveaux-nés lorsque d'autres partaient. Puis les femmes partaient parfois à la chasse aussi. Même que j'ai lu récemment, les pères allaitaient. Parce que vous avez des glandes mammaires. Vous avez des glandes mammaires, OK? Et okay. Vous pouvez produire à longue de stimulation. Du colostrum, assurément, et aussi peut-être éventuellement, mais là, en tout cas, là, je n'irai pas là.
On dirait que j'aime pas l'image que ça me met.
J'aime pas l'image non plus, mais semble-t-il, en tout cas, que c'est une réalité. Donc, c'est ça. Fait que ça rejoint un peu. On disait aussi autrefois, hein, ça prend un village pour élever un enfant. On a déjà entendu cette expression-là. Donc, je pense que, comme vous dites, ça rejoint un peu ce...
Dans certaines cultures, effectivement, les enfants sont élevés par...
Plusieurs personnes.
Donc, le lien d'attachement se fait...
Différemment, mais
il y a des personnes significatives qui participent au développement affectif et émotionnel de l'enfant.
Mais au niveau de l'anxiété de l'enfant, il doit aussi avoir assurément un lien entre la capacité de réguler ses émotions du parent et de l'enfant. Si le parent est anxieux, l'enfant va probablement l'être de façon inconsciente lui aussi sans comprendre pourquoi.
Ben, il faut savoir qu'un enfant qui est jeune ressent beaucoup ce qui se passe au niveau de ses parents.
Ah oui, est-ce qu'on est plus sensible à ça?
L'enfant va ressentir. Il y a des enfants qui... On a vu dans certaines études des enfants qui vont pleurer beaucoup, puis je dis pas que dans tous les cas c'est comme ça, mais des enfants qui vont pleurer beaucoup pour garder éveillée une mère qui pourrait être dépressive, par exemple.
Ah oui!
Et en la gardant active,
comme les chiens.
En la gardant active, ben elle peut pas être totalement dans sa dépression parce qu'elle est obligée de s'occuper de l'enfant. Mais là, ça, c'est un cas d'espèce comme ça. Mais j'avais déjà lu quelque chose
très intéressant.
De cet ordre-là.
Merci beaucoup pour votre appel.
Hey, Mel.
Oui.
Je veux juste que tu fasses attention à une chose. Je suis dans le domaine de la paléoanthropologie, OK?
OK.
Ce que tu as dit, de l'allaitement, les femmes qui allaient à la chasse, c'est de la propagande woke, présentement, qu'on a dans les universités. Faut être très, très, très prudent.
C'est pas vrai, selon vous?
Oui. Je suis très, très, très honnête là-dedans.
C'est vrai?
Je suis. Parce qu'on a juste une culture que l'homme donnait le sein, il donnait pas de lait.
OK.
Et les femmes à la chasse, c'est vraiment des propagandes woke au niveau des universités. L'être humain, Homo sapiens, Néandertal, Homo erectus, c'est la même affaire un peu que le chimpanzé. La chasse au gibier à risque, c'est masculin.
Bon, ben écoutez, je vais refaire mes devoirs, je vais relire comme il faut là, ce que j'ai lu là-dessus. Ça promenait de Science et Vie, là, donc, ou un truc comme ça, là, bref. Je vais quand même...
Idéalement, Mel, je te suggère le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. C'est sûr que tu t'en vas voir, Madame Patou, ces personnes-là, ils ont eu des subventions pour justement aller dans le sens de leur idéologie.
Bon, ben écoutez, je vais prendre vos conseils et je vais m'informer comme il faut parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis évidemment que je partage ce que je lis, mais je vais m'assurer là, d'avoir les bonnes sources. Merci.
Ah, c'est pas évident.
C'est pas évident. Merci beaucoup.
Merci, Stéphane.
Bonne soirée.
Mais en même temps, moi, j'ai déjà lu à quelque part, puis ça me sautait à l'esprit quand tu m'en as parlé, là, juste par le caractère un peu étrange de voir un homme allaiter un kid, là, c'est pas commun. Mais l'homme, autant que la femme, ont la même hormone de prolactine. Donc, techniquement, les deux pourraient le faire, tout dépendamment de comment c'est déclenché. C'est juste que je sais pas si c'est vrai, moi non plus.
Non, mais ben moi, en fait, c'est un réel article, là, je veux dire, d'une revue quand même connue là, que j'ai lue, donc je vais quand même retourner à ma source. Là.
Les deux ont l'hormone, fait que techniquement, ça se peut. Là.
Oui, c'est ça, à longue de stimulation. Là, c'est pas du jour au lendemain que, ben, comme la mère, en fait, lorsqu'on accouche, c'est pas toutes les mères qui produisent du lait. Directement, ça a pris 5 jours là, avant que ça fonctionne. Donc, à longue de stimuler et tout, puis il y a des femmes qui réussissent juste jamais à en produire. Mais là, on est complètement ailleurs que de la psychologie du sujet principal de ce soir.
Oui.
C'est un peu mon genre, par exemple, de m'égarer comme ça, mais...
Ah, je m'ennuyais de ça.
Donc, voilà, on va tout de suite aller rejoindre Michel.
Lisa.
Ah, Lisa.
Lisa qui est présentement en ligne.
Oui, bonsoir, Lisa.
Bonsoir, c'est moi le texto roman de tantôt.
Oui, oh mon Dieu, je vais te garder pour la fin parce que c'était tellement inspirant. Donc, raconte-nous ton histoire, s'il vous plaît.
Oui, ben en fait, moi, j'ai eu un diagnostic là, de trouble de personnalité limite il y a de cela 8 ans. J'ai vécu un deuil, ça peut paraître niaiseux pour certains, mais j'ai perdu mon chien. Puis, je suis mort d'en revenir. Je me suis ramassée en urgence, j'ai eu un diagnostic. Par la suite, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de traumas dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de gens qui sont décédés autour de moi. Ma meilleure amie s'est suicidée. Mon père est décédé dans un accident de 4 roues. Ma mère est décédée en tombant dans les marches à son emploi.
Ah, par quoi?
Donc, j'avais toutes les raisons, avec mon diagnostic, de lâcher, d'abandonner. Puis, je me suis même battue. Puis je voulais en parler. C'est pas de quoi que je parle d'habitude tant que ça, ce diagnostic-là. Mais souvent, on va se faire dire qu'il y a des gros risques de suicide au niveau des troubles de personnalité limite. Mais c'est pas une finalité.
Exactement. Vous avez réussi à vous en sortir.
C'est un message que je trouve important. Oui, j'ai fait des psychothérapies, thérapies, beaucoup de méditation. Puis, tu sais, j'ai ma maison, mon fils de 2 ans, puis je vis la vie de mes rêves maintenant, là.
Bravo, sérieusement, ce que vous avez vécu, est-ce que ce avec quoi vous vivez au quotidien, là, c'est pas évident. Et dans votre message écrit, vous parlez de constellation familiale. Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous, Dr Rochefort? On entend de plus en plus parler de ça, là, la constellation familiale.
Et... C'est pas un domaine que je connais bien. J'ai entendu parler dernièrement là, qu'il y avait beaucoup de d'intervenants en coach qui travaillaient avec cette approche-là, mais je pourrais pas en parler davantage. Okay. Là.
C'est pas quelque chose qui est discuté là, à l'ordre.
Par contre, ce que je pourrais dire à madame, c'est que ça prend beaucoup de courage là, quand on a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Puis chaque personne qui a un trouble de personnalité limite est différent l'une de l'autre.
Ouais.
Alors, ses ressources sont pas pareilles. Les traumas qu'il peut y avoir de façon sous-jacente ne sont pas les mêmes non plus. Alors, c'est très difficile de faire une généralité pour quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, mais les gens qui vont avoir des gros problèmes, je dirais, de régulation émotionnelle particulièrement, vont être ceux qui vont être le plus peut-être en détresse. Les gens qui sont les plus impulsifs dans leur TPL et qui ont plus de difficultés à se réguler émotionnellement, c'est les gens qui sont le plus en crise puis qui vont se retrouver plus souvent dans les urgences. On sait aussi qu'il y a des programmes spécialisés, comme à Québec, il y a des programmes spécialisés pour traiter les troubles de personnalité limite. Quand les gens consultent en CLSC, ils peuvent être dirigés vers des ressources qui traitent spécifiquement le trouble de personnalité limite.
Il existe aussi des centres de crise. Si jamais vous êtes en crise puis vous avez un problème momentané.
Spécifiquement pour les gens.
Ben pour toutes sortes de problèmes, mais oui, j'ai déjà vu, moi j'ai une amie qui a un trouble de personnalité limite puis qui a déjà fait affaire avec des centres de crise parce qu'un soir, elle sentait les émotions monter comme un volcan puis elle sentait que ça allait exploser. Puis dans ces endroits-là, ben tu peux aller là, tu peux sortir de ton environnement. Des fois, ça peut aider. On parle la semaine de la prévention du suicide. Là. Des fois, tu as juste besoin de changer d'air. C'est pas tout le temps évident de changer d'air.
Ben, et ça, d'ailleurs, je sais que quelqu'un qui va vous consulter, par exemple, en thérapie, s'il ne change pas son environnement, ça se pourrait que ça donne absolument rien. Là.
S'il est dans un environnement toxique, s'il est dans un environnement qui n'est pas capable de lui apporter le soutien nécessaire et qui a le recul nécessaire aussi pour être capable d'intervenir avec cette personne-là. C'est pas évident, là, quelqu'un qui est en crise, qui est, on appelle ça, dysrégulé sur le plan émotionnel, c'est pas évident pour les proches autour de savoir comment conjuguer avec quelqu'un qui est en état de crise comme ça.
Effectivement.
Maintenant, il y a quand même plusieurs services d'aide téléphonique.
Autant pour la personne que les proches.
Oui, ben pour les proches, il y a la boussole qui existe comme organisme à Québec. Mais pour les gens qui sont en crise, ils peuvent contacter ces lignes téléphoniques-là et selon ce qu'on va retrouver comme symptômes et comme état de crise, on va référer vers les fameux centres de crise. Il y a deux endroits sur le boulevard René-Lévesque là, qui sont des centres de crise puis qui travaillent en collaboration avec le Centre de prévention de suicide aussi.
Merci beaucoup, Lisa, et félicitations vraiment. Tu es hyper inspirante. Merci d'avoir...
Je peux avoir juste un message pour ceux-là qui ont besoin d'aide.
Oui.
Il y a souvent beaucoup plus de personnes que vous le pensez qui tiennent à vous. Fait que défoncez-les les portes, si vous cognez puis ils ne s'ouvrent pas, puis lâchez pas parce que votre suicide, ça réglera. Ça va régler un problème temporaire. Solution permanente pour un problème temporaire.
Voilà.
On a merci, juste une bonne soirée.
Bon courage.
Merci beaucoup. Bravo, merci.
Le suicide, là, ça tue... Surtout les autres.
Ouais.
Étrangement, là,
ça éteint. Ouais.
Ah, c'est l'enfer. Quand quelqu'un s'enlève la vie, ça part avec une partie des gens de son entourage. Ça, c'est rough.
Il y a des gens qui s'en remettent pas du tout.
Il y en a beaucoup qui s'en remettent pas.
Bon, sans votre côté ésotérique...
Tu vas pas me parler de pierre magique, là?
Non, mais ma voyante...
Ah, c'est parti!
Non, mais moi, j'ai plus peur de la mort.
J'irai pas là.
Non, je le sais. Mais j'ai plus peur de la mort du tout depuis que je parle avec la médium qui entre en contact avec ma mère. OK, l'autre côté, ça a l'air vraiment beau, mais pas pour les gens qui se suicident, justement.
Pouvez-vous y diagnostiquer un trouble de voyance? Ça se diagnostique-tu, ça, donc?
En tout cas, mais c'est mes croyances, hein, puis ça me fait.
On te respecte là-dedans.
Ça me fait du bien d'y croire. Mais.
Mais il ne transfère pas de l'autre côté, finalement. C'est ça que tu dis?
Ben, ça a l'air plus compliqué, là. Ah ouais. Dans le bas astral. Il reste dans le bas astral.
Fait qu'en plus de t'enlever la vie, t'es pogné ici encore.
Non, c'est
fait
ça.
Tes problèmes sont pas réglés.
Non, mais semble-t-il, c'est bien compliqué. Fait que faites pas ça, OK?
Ben, idéalement.
Faites pas ça. Hein? Pensez pas à l'acte. Anyway, s'il y a bien quelque chose qu'on sait, c'est qu'un jour, on va tous mourir. Fait que...
Mais les gens qui pensent à se suicider, c'est parce qu'ils voient plus d'opportunité de s'en sortir.
Ah, ça
ils
doit
voient
être...
pas de solution.
La douleur intérieure doit être... tellement
c'est ça, mais forte. Là, c'est parce qu'ils sont trop envahis par les problèmes qu'ils ont, puis ils voient pas de solution. Mais il y a des gens qui vont les aider à voir qu'il y a des solutions, qui ont le recul nécessaire pour être capable de les aider à voir la situation autrement.
Oui. Avant d'entrer en onde, j'ai un auditeur qui m'a laissé un message vocal et qui m'a posé une drôle de question, mais ça piquait quand même ma curiosité. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui songe au suicide, OK, qui se ramasse tout à coup dans une cage avec un tigre, mettons un exemple, là, et que là, il se fait attaquer, est-ce que vous pensez que, comment dire, notre ADN est fait pour se défendre? Donc, même si psychologiquement, lui, songeait au suicide, en situation de, comment dire, d'accident ou de... C'est l'instinct de survie là, qui régisse. Qui...
C'est parce qu'on n'est pas dans les mêmes choses.
Oui, c'est ça. Ouais.
On est dans l'instinct de survie.
Est-ce que l'instinct...
Pour vivre ou de mourir, alors que quelqu'un qui veut se suicider, il est dans une détresse psychologique. Puis il ne voit pas de solution pour faire face à la situation ouais. problématique qui est en train de se passer
okay.
ou à la détresse intérieure qu'il est en train de vivre.
Mais
alors,
c'est intéressant.
On n'est pas dans la même chose.
Mais c'est intéressant quand même, ce débat-là. T'sais, est-ce qu'une période de danger peut t'amener à relativiser
c'est ça.
Instantanément pour faire « Oh shit, c'est vrai, je suis en vie. Là. Faut ouais. que je reste en vie.
Ouais. »
Mais c'est parce que les gens, ils veulent pas nécessairement mourir.
Ils veulent juste être bien.
Arrêter de souffrir.
Mm-hmm. Mm.
Alors, c'est pas la même chose du tout. Là.
Je pense que c'est pour ça que c'est très important de le matérialiser. De le dire, de prendre ses paroles puis d'envoyer ça dans l'univers, de créer des nouvelles ondes pour sortir ça dans dedans, d'en parler à quelqu'un. Je pense que c'est la première étape là, pour les gens qui ont ce genre d'idées-là. Il faut absolument matérialiser ces idées-là, les faire naître, les mettre à la lumière du jour ou de la nuit, n'importe. Il faut juste en parler.
Oui, puis aussi au niveau du suicide, sûrement qu'un intervenant du Centre de prévention du suicide serait plus... aurait peut-être plus les bons mots pour s'expliquer là-dessus. Mais quand il est question de gens qui ont des idées suicidaires, on a les gens qui ont des idées suicidaires de façon chronique, qui sont une certaine catégorie avec lesquelles il y a des façons d'intervenir. Et il y a les gens pour lesquels c'est une situation X qui vient de se passer. Et c'est trop de détresse momentanément. Mais sinon, lorsque la solution va être résolue, la personne ne pensera plus au suicide. Alors, on est dans deux cas de figure pour lesquels les interventions sont très différentes.
Et lorsqu'on subit un choc, une émotion négative, quelque chose de soudain, est-ce que c'est vrai qu'il y a un délai là, en moyenne, à respecter avant de réagir, que ce soit un conflit, que ce soit justement une pensée suicidaire ou bref, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Là.
Pas tellement.
Lorsqu'on...
Excuse-moi, Ben.
Lorsqu'on subit un choc ou une nouvelle qui nous anéantit littéralement
ouais.
et qu'on pense... Bref, est-ce que c'est vrai que l'émotion qu'on ressent finira inévitablement par s'estomper au bout de X heures?
OK. Un nombre de temps avant de réagir, avant d'en parler, tu parles?
Bien, avant d'en parler, avant de réagir, avant de...
C'est pour ça que les décisions, on doit quand même attendre avant de les prendre quand on est en détresse émotionnelle.
C'est ça, la détresse pourrait finir par s'estomper au bout d'un certain temps.
Ça fait ça.
Okay.
Au bout d'une ou deux journées. Puis on voit ça,
peut
aussi,
être long, hein, mais...
on voit ça aussi chez les gens qui font du tag, qui s'inquiètent de façon excessive et qui font des scénarios catastrophiques. Sur le coup, c'est très gros comme émotion, ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Et ce scénario-là finit par se dissiper tranquillement. Le lendemain matin, la personne n'a même plus la même impression, la même inquiétude par rapport à ce qu'elle avait la veille.
Faire une sieste, ça sauve des vies.
Alors effectivement, quand ils disent qu'on peut prendre le temps d'avoir un certain recul avant de prendre une décision lorsqu'on a un choc émotif, c'est vrai que c'est mieux de prendre le temps nécessaire pour pouvoir avoir un recul.
On va retourner à la pause. On a des gens encore qui attendent en ligne. On va retourner à la pause et tout de suite au retour, on continue de prendre vos appels. C'est le 418-670-9098 pour interagir avec nous directement au téléphone ou par texto. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes de retour avec Max et Mel. Vous écoutez La Sexploratrice. Ce soir, on est en compagnie de Dr. Jean-Guy Rochefort, psychologue clinicien. Et on est en live sur le TikTok de La Sexploratrice. Et Dr. Rochefort, je mentionne à nouveau le nom de vos deux livres, Les blessures psychologiques, qui est votre petit nouveau.
Oui.
Qui est disponible dans toutes les librairies, ainsi que La portée des mots dans une vie, qu'on va faire tirer là, sur nos réseaux sociaux.
Absolument.
Donc, voilà. Vos deux petits bébés. Très intéressant d'ailleurs. Et merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant de passer au téléphone, on a des appels en attente. Je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur la dépression, puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes, là, mais je trouvais vraiment très important de revenir là-dessus, puisque comme vous me disiez hors d'onde, il y a parfois des sensations qui rendent, en fait, qui invalidantes, qui peuvent survenir lorsqu'on est en dépression.
Ouais. Puis, bon, on dit que près de 12 % de la population québécoise adulte aurait vécu au moins un épisode dépressif au cours de leur vie. C'est quand même pas rien. Puis, quand on parle de dépression, la dépression peut prendre différentes formes, puis peut avoir des déclencheurs qui sont très différents les uns des autres. Bon, quand on parle de dépression, bien sûr, ça affecte le sommeil, ça affecte l'énergie. La personne est triste, la personne n'est pas motivée, ça affecte son appétit.
C'est vraiment le corps
également.
Qui est depressed.
Oui. Oui, puis à un moment donné, il y a aussi certains neurotransmetteurs qui sont affectés par tout cet effet d'humeur-là. Et quand on regarde au niveau du cerveau, juste quelques petites explications rapides, c'est qu'il y a des structures dans le cerveau. Une structure qui est plus impliquée dans les troubles anxieux, puis une structure qui est plus impliquée dans l'humeur, c'est deux structures qui sont collées une sur l'autre. Alors, on peut comprendre pourquoi il y a des gens qui vont avoir des symptômes anxio-dépressifs. C'est parce qu'il y a des communications aussi au niveau neurologique qui se passent chez les gens.
Ça a des liens, j'imagine, avec la sérotonine et la sécrétion des hormones du bonheur et tout.
C'est
et tout.
Ça. Alors, la maladie mentale de la dépression... se déploie sur un large spectre. Alors, ça peut être un épisode isolé, récurrent, persistant et qui découle de dysrégulation émotionnelle de façon importante. Alors, ça peut survenir suite à une déception significative, un deuil persistant, une perte symbolique, un épuisement professionnel. D'ailleurs, il y a des gens qui vont faire des épuisements professionnels qui vont découler sur une dépression.
Si c'est pas
Mais
soigné.
Mais c'est pas la même chose. Dans l'épuisement professionnel, tous les symptômes sont vraiment très liés au travail, à quelque chose en lien avec soit avec l'employeur, avec le milieu de travail, puis les gens qui vont faire un épisode d'épuisement. C'est pas n'importe qui. C'est des gens en particulier qui sont très exigeants avec eux, qui se mettent beaucoup de pression.
Puis ça peut être un épuisement familial aussi, là. Ça se peut, ça. Un épuisement professionnel, ça peut être aussi un épuisement suite à la charge mentale trop élevée à la maison, non?
Si la personne se demande beaucoup, puis qu'elle n'est pas capable de suffire aux tâches qui sont nécessaires.
Ah.
Mais il y a quelque chose en lien avec le tempérament de l'individu.
Ah,
c'est pas tout le monde qui va aller faire un épuisement.
C'est dépressif.
Les gens qui font des épuisements, c'est des gens qui sont exigeants, qui se mettent beaucoup de pression. Alors, on peut comprendre au niveau du milieu de travail que si je suis avec un employeur, un gestionnaire qui est très exigeant avec moi, qui est déjà très exigeant avec moi-même, je ne serais pas capable de passer à travers. Ça va m'affecter de façon importante, puis ça va affecter mon estime professionnelle et personnelle. Mmh. Alors, si ça persiste de façon trop importante, ça se peut que tranquillement, je développe des symptômes dépressifs.
Et puis ça, c'est pas évident pour les proches.
C'est très difficile.
Les proches à la maison qui vivent avec une personne dépressive, il faut faire attention de
c'est
ne
contagieux.
Pas... Oui, de pas tomber eux aussi. Là.
Ben, surtout, je vous dirais, les dépressions, chez les dépressions persistantes chez certaines personnes, des fois, on va parler de dépression endogène qu'on retrouve dans la famille, là, dans la génétique. Et chez ces types de personnes-là, les traitements sont très résistants. Alors, vous avez déjà entendu parler de la sismothérapie, qui est les électrochocs.
Alors, non, ça existe encore?
Ben oui, ça existe encore. Puis c'est utilisé de façon assez importante avec les cas résistants et il y a des très bons résultats.
OK.
Alors, pour certaines personnes, c'est le seul traitement qui est efficace. Mais c'est un faible pourcentage. Là. Il ne faut pas que les gens se disent quand, si je fais une dépression, ils vont me faire de la sismothérapie. C'est pas
mais
dans
c'est
ces
quelque
cas-là.
Chose qui fonctionne chez les cas récurrents ou des cas très, très
oui,
profonds
très, très,
de dépression.
Oui, oui. En psychiatrie,
et là,
là
ça envoie un choc dans le cerveau.
Ben, là, je ne veux pas m'aventurer ouais, okay. dans l'explication de
okay.
tout
mais
le
ça
mécanisme.
Mais
je peux vous dire que c'est
ça.
Quelque chose qui est très efficace.
Ah, oui.
Quand on a essayé toute autre forme de traitement, et que ça s'avère trop résistant. Puis, il y a eu des émissions dernièrement à la télé là-dessus où les gens étaient très reconnaissants d'avoir reçu ce type de traitement-là parce qu'ils ne voyaient plus la lumière au bout du tunnel.
Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent demander ce traitement-là?
Bien, il y a des gens pour lesquels, dans l'émission que j'ai écoutée dernièrement, il y a des gens qui recevaient ce traitement-là de façon régulière depuis des années. Quelques traitements par année.
Ça fait du sens pour moi quand même quand je pense à ça parce que j'ai l'impression que quand t'es en dépression, c'est parce que ton moi est vide. T'as plus rien en dedans puis t'essayes de le remplir avec ce que tu peux. Mais souvent, puis c'est genre claquant, je pense qu'un psychologue des années 30, un psychologue français que vous connaissez probablement, lui, il parlait de lâcheté morale. Il disait pas la morale en tant que telle, mais morale l'humeur. Il disait que c'est juste que ton moral est lâche. Donc, il sait plus quoi faire pour te faire sentir bien. Et souvent, sous-jacent de ça, il y a un événement que tu comprends pas qui t'amène dans un état de dépression. Peut-être que t'entretiens de la haine, de la colère à l'égard d'un événement X ou Y. Mais t'es pogné dans cette lâcheté-là puis tu comprends pas pourquoi. C'est-tu vrai, ça?
Ben là, je suis pas prêt à généraliser comme ça parce que là, on essaie de trouver des explications psychologiques à un type de dépression qui est résistant au traitement psychologique et pour lesquels les seuls traitements qui s'avèrent efficaces, c'est un traitement qui est physiologique. Alors, je serais pas prêt à utiliser cet exemple-là.
Je parlais pas juste de la sismothérapie, mais je parlais de la dépression générale. Je disais que ça m'étonne pas que ça puisse aider parce que justement, ça refait les liens dans le cerveau. Donc, ça te donne ce que tu as besoin pour rendre la lâcheté plus ferme. Tu sais, ça te remet en place. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de lâcheté, du moral là-dedans, que on a du mal à comprendre pourquoi on est dépressif quand on est dépressif des fois?
Non, je serais pas d'accord avec cette affirmation-là.
Pourquoi?
Ben, écoutez, quand on parle de symptômes dépressifs, il y a des gens qui pourraient faire ce qu'on appelle un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, qui est très différent de quelqu'un qui fait ce qu'on appelait auparavant un épisode de dépression majeure. Puis il y a des gens qui vont avoir des troubles de personnalité qui, à la longue, vont les affecter de façon persistante puis qui vont finir par développer des symptômes dépressifs importants. Et le seul moyen pour aider ces gens-là, c'est de traiter le trouble de personnalité. Parce que la dépression chez ces gens-là provient de des enjeux liés à son trouble de personnalité.
Mais les gens, ils savent tout le temps pourquoi ils sont dépressifs?
Non, ils savent pas les gens.
Pas le pourquoi, je pense.
Mais ça revient à ce que je disais, en fait. C'est ça. Les gens comprennent pas. C'est un problème latent. C'est quelque chose qui est inconscient, qui ne savent pas toujours.
Il n'y a pas de cas pareil. Je ne peux pas comme généraliser avec toutes les formes de dépression qu'on va retrouver chez les gens. Il y a des dépressions qui sont très liées à un événement déclencheur. Il y a des dépressions qui vont se développer à la longue parce qu'il y a des enjeux, des schémas chez la personne qui persistent puis qui sont insatisfaisants pour la qualité de vie de la personne.
Okay.
Puis qui affectent aussi ses relations interpersonnelles. Donc, la personne interprète, la personne fait des distorsions cognitives. Puis là, on pourrait s'embarquer dans un...
Ouais.
Si vous voulez qu'on parle des troubles de personnalité un jour, on le fera.
Oui, c'est un sujet qui revient beaucoup là, sur le live, okay. D'ailleurs, les troubles de personnalité.
Mais c'est très particulier, puis juste en parler rapidement, ça fait juste comme allumer quelques petites lumières, puis c'est insatisfaisant des
on
fois.
On pourra aller plus en profondeur dans une prochaine émission, je pense.
Si ça vous tente de me réinviter.
Sur le sujet, absolument, assurément. Et il y a quelqu'un là, sur le live qui nous raconte, juste avant d'aller au téléphone, là, qu'à l'âge de 18 mois, sa mère est partie en voyage, elle n'est jamais revenue, elle est décédée là-bas. Donc, il y a quelques années, elle a maintenant 49 ans, cette personne-là, elle s'est rendue compte que lorsque son père ou toute autre personne qu'elle aimait partait en voyage, elle ressentait un profond malaise, très, très intense. Et c'est récemment qu'elle a réalisé que ce malaise-là provenait de cette... De ce moment-là, finalement. Donc, aujourd'hui, en connaissant ça, ben, fait que parfois, il faut juste essayer de trouver d'où est-ce que vient le malaise ou d'où vient le...
Oui, mais c'est pas...
C'est pas évident.
Non.
Mais non, parce qu'elle était jeune, en plus, elle, lorsque...
Parce que chaque personne va interpréter et va vivre ses expériences de façon très différente. C'est pour ça que quand on a quelqu'un dans notre bureau en psychothérapie, on se doit vraiment d'être à l'écoute de cette personne-là dans son monde, dans ses interprétations, dans ses ressources à elle. Je dois faire très attention pour pas partir de moi-même pour interpréter les choses. Ouais.
Est-ce que vous arrive parfois, lorsque la personne, par exemple, est âgée dans la fin quarantaine, cinquantaine, soixantaine, symptômes de dépression, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire, hey, avez-vous regardé du côté de, justement, vos hormones? Avant de parler des neurotransmetteurs ou des trucs comme ça, est-ce que c'est des choses qui pourraient... Parce qu'on sait, hein, la ménopause, l'andropause, parfois c'est sournois, c'est des symptômes qui ressemblent beaucoup à la dépression, alors que c'est un simple débalancement hormonal. Donc, est-ce qu'il y a des trucs...
En fait, moi, je travaille régulièrement en concertation avec le médecin de famille.
Ah oui,
dans les
OK.
différents dossiers, parce qu'on a quand même passablement de patients qui prennent une médication en même temps qu'ils ont la... psychothérapie.
OK.
Puis c'est bien de travailler de façon systémique là, avec les autres intervenants dans les dossiers. Alors, bien entendu, moi, quand je fais une évaluation de quelqu'un qui vient me voir pour la première fois, je fais une évaluation rigoureuse. J'ai une grille d'une dizaine de pages mm-hmm. où j'explore vraiment toutes les dimensions de la personne.
D'accord.
Avant de me faire une idée sur la situation. Puis après ça, on s'entend ensemble sur le plan d'intervention là, qui va être fait avec la personne. Puis l'intervention va varier selon les besoins de la personne.
Un effet sur l'autre, quand même, c'est intéressant. Hein?
Très intéressant, vraiment. Et quelqu'un demande à quel âge l'andropause. L'andropause, la ménopause, on le sait, c'est de plus en plus jeune avec tous les...
14 ans.
Les balancements hormonaux, là. Non, mais dans la trentaine, c'est pas rare qu'on en voit. Mais
dans
on
la
a
trentaine?
Déjà fait Ouais.
Arrête.
Ouais, de plus en plus. Non, c'est fou. Mais allez voir, on a fait une émission là-dessus, là, donc allez voir sur le Spotify de la Sexploratrice ou au radiox.com. On va aller au téléphone, quelqu'un de très patient d'ailleurs. La Sexploratrice, bonsoir.
Bonsoir, c'est à vous.
Oui, ouais. La personne a quitté.
Il n'est plus là.
Mais c'est ça, donc, concernant les TPL et tout ça, on va vraiment faire une émission là-dessus parce que ça mérite, je pense, de revenir sur le sujet. Et maintenant, en fait, moi, ce que je trouve fascinant, bien fascinant, même triste, c'est qu'on dit que c'est environ 4500 décès par suicide chaque année qu'on retrouve au Canada. Et là-dessus, c'est 75% des décès qui seraient des hommes. Donc, 75% des gens qui se suicident seraient des hommes. Est-ce que vous voyez plus d'hommes en dépression dans vos bureaux?
En dépression, j'ai pas tant de gens qui consultent. J'ai beaucoup plus de gens qui consultent pour des troubles anxieux.
Ah oui, la dépression.
Okay. Il y a des symptômes dépressifs qui accompagnent. Mais quand on fait une bonne évaluation, puis que les gens comprennent ce qui les affecte, déjà, il y a un soulagement chez la personne, elle se sent bien prise en charge. Moi, je suis quelqu'un qui explique. Suite à l'évaluation, j'explique ce que j'observe, les hypothèses que j'ai, je les soumets et la personne va me dire si ça fait du sens pour elle, les éléments que je rapporte. Puis à partir du moment où ça fait du sens, puis que ça donne un sens à sa détresse, bien là, elle a un espoir qui renaît, une lumière qui apparaît.
Mais pas la lumière au bout du tunnel, là.
Ouais, non.
Je l'accompagne dans cette démarche-là. Oui. Elle se sent accompagnée. Je peux pas dire que chaque démarche est semblable. Il y a des gens que ça se fait de façon plus courte. Il y a des gens que c'est plus long. Ça va dépendre des différents éléments. Quand on est dans des éléments de personnalité ou de schéma dysfonctionnel, ça risque d'être plus long là, pour la personne. Parce que ça va dépendre beaucoup de son implication et de sa motivation dans son traitement. Il y a quand même un certain nombre de personnes pour lesquelles on va répéter les mêmes consignes, les mêmes choses, puis la personne oublie rapidement les informations qu'on lui donne. Mmh. Alors, il faut trouver d'autres façons de ramener ces informations-là pour que ça finisse par s'intégrer, okay. Que ça fasse du sens là, pour la personne. Mais c'est pas facile de changer, vous savez.
Ben non! Puis, est-ce que c'est vrai que c'est, admettons, quelqu'un là, qui voudrait se prendre en main, changer bon, son environnement, est-ce que c'est vrai que c'est environ 21 jours au minimum que ça prend le temps d'instaurer une nouvelle routine, un nouveau changement de vie, tout ça? C'est-tu à peu près le nombre de
21 jours de quoi?
Ben, disons là, que je veux changer des trucs à la maison avant de voir les résultats positifs sur moi. Là, disons, une nouvelle routine de vie, une nouvelle routine hygiène de vie, tout ça, avant d'en ressentir les effets positif et de vraiment instaurer la nouvelle routine et que ce soit plus une tâche pour moi, mais bien ancrée. On dit que c'est environ 21 jours.
Bien, premièrement, il faut que la personne identifie clairement qu'est-ce qui est insatisfaisant chez elle pour mettre en marche un processus de changement. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de schémas qui sont installés de façon automatique. Alors, si on a choisi d'installer des réflexes, c'est parce qu'on a des convictions à l'intérieur de nous, puis des fois des convictions qui sont fausses.
Mm.
Puis nos schémas sont beaucoup motivés par ces fausses croyances-là.
Oui.
Et on a beaucoup de réflexes automatiques. On s'en aperçoit pas, là, mais continuellement. Alors, changer des réflexes automatiques, c'est ça qui est difficile à faire. Oui. Alors, il faut en prendre conscience. Puis après ça, décider dans quel sens je vais aller. Puis là, instaurer des changements de comportement et d'attitude. Et ça, c'est pas nécessairement facile parce qu'il faut se parler constamment pour se rappeler qu'est-ce qui motive à ce changement-là. Parce que je peux arriver une journée à être insatisfait, à être pas bien, mais pas être prêt à apporter les changements qui sont nécessaires.
Mm-hmm. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc, pour les auditeurs qui voudraient vous rejoindre, est-ce que vous faites encore des consultations? Est-ce qu'on peut vous contacter pour...
On peut essayer, mais j'ai vraiment pas de place.
Oh.
J'ai une liste d'attente de plusieurs mois, puis je vois plus beaucoup de monde. Je fais 2 jours de consultation par...
OK.
Mais j'ai des sites, là, je vais avoir des capsules maintenant
oui,
à partir de la semaine prochaine
sociaux.
Sur les réseaux.
Très intéressant.
Qui va distinguer différents concepts. Je vais donner des petits trucs simples, des conseils pour... Alors, les gens sont invités à me suivre sur mon site de Jean-Guy Rochefort, psychologue.ca ou sur mon Facebook professionnel. S'ils s'inscrivent pour me suivre, ils vont pouvoir prendre connaissance de toutes ces capsules-là.
C'est parfait. Et vous avez vos 2 livres qui sont disponibles
absolument.
En librairie.
Les gens peuvent m'écrire sur mon site web aussi. Mon site web est rempli de bonnes informations, de références de livres, de définitions sur différents concepts psychologiques.
Puis, on n'en a pas parlé là, en début d'émission, mais vous avez quand même 42 ans d'expérience comme psychologue clinicien.
Absolument.
Et 16 ans de... Vous avez enseigné, en fait, durant plus de 16 ans à l'Université Laval.
Oui, à l'École de psychologie, aux étudiants de maîtrise et doctorat.
C'est extraordinaire.
Oui. j'ai travaillé en collaboration avec l'urgence psychiatrique de l'Enfant Jésus. J'ai travaillé... au guichet d'accès en santé mentale, les gens qui étaient référés par les médecins pour procéder à une évaluation, ils passaient par certains psychologues dans le réseau de la santé. On procédait à l'évaluation avant de les référer. Alors, c'est ça, j'ai une vaste expérience.
Je suis vraiment contente d'avoir pu vous avoir ce soir avec nous. Les auditeurs, clairement, ont adoré aussi. Donc, merci.
Ça m'a fait plaisir.
Vraiment, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je tiens à remercier également Max.
Hey, merci à toi.
Merci beaucoup.
Ben merci à toi. Écoute, ça a été le fun. Moi, j'ai mis mes pieds sur le pouf pour en jaser.
Ouais.
Ça, que je pars d'ici, l'esprit tranquille et beaucoup moins dépressif que je suis rentré. C'est ça, la bonne nouvelle.
Parle-moi de ça. Et on envoie toutes nos pensées positives à toutes les personnes qui en ont besoin en ce moment. N'hésitez pas à contacter le 811 en situation de crise. Vous avez rapidement là, la ligne d'accès. Sinon,
le 911.
Le 911, si vous êtes sur le bois de passer à l'acte, mais le 811, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a la ligne de crise. Vous pouvez faire l'option 2 ou 3, je pense.
Absolument.
Pour la ligne de crise. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant.
Puis le 411, ça n'existe plus.
Le 411, ça.
Ça n'existe plus, ça. Mais non, ça n'existe plus.
Ah, Météo Média non plus n'existe plus.
Comment ça, Météo Média? Ça existe.
7766. Non, ça ne marche plus.
Tu pouvais faire ça au téléphone.
Tu fais l'appel. Ah, ben oui, on fait appeler la météo au téléphone.
Arrête.
Mais oui.
J'ai pas connu ça.
Ah, ben oui, c'est ce que tu étais 766. C'était la météo au téléphone.
Ah, tu trahis ton âge.
Je sais, je suis bien.
Mais pour les gens là, qui sont vraiment en détresse,
oui.
Non,
ah oui,
pas
c'est vrai,
solution,
c'est ça qu'on
là.
Parlait. Excuse-nous. Excuse-nous, Doc.
Faut pas oublier qu'ils ont perdu le sens de l'espoir.
Oui.
Puis il y a des gens pour les aider à retrouver l'espoir.
Oui, parce c'est que, vrai.
Parce
on
que
a des
quand on pense au suicide...
Ça.
C'est parce qu'on voit plus de solution, c'est pas parce qu'on veut mourir, c'est parce qu'on souffre trop.
Exact.
Alors il y a des gens pour vous aider.
Oui, vraiment. Donc 811 ou les lignes directes là, de il y a les centres de crise également qui sont à votre disposition et la boussole pour les proches.
Merci beaucoup Mélanie.
Merci
Max.
Merci à vous,
docteur Jean-Guy Rochefort que vous pouvez retrouver un peu partout là sur les réseaux sociaux. Merci Max, merci les auditeurs et juste avant de vous quitter, je vais vous parler d'une Saint-Valentin signée Planetix parce que Planetix c'est plaisir, surprise et découverte. Vous avez envie de trouver les produits adaptés à vos besoins. Chez Planetix, on offre toujours les meilleurs prix. Mettez un peu de piquant dans votre vie grâce à Planetix. Visitez l'une de nos 6 boutiques sexo-éducatives, Laurier-Québec, Galerie de la Capitale, Beauport, Boulevard Charest, Lévis et une sur Francarelle pour visiter en ligne et obtenir de 20 à 80 de rabais. Eh bien, c'est monplanetix.com.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Sexploratrice. Radio X.